de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Dans la première émission qu'il avait consacrée à Mikhaïl Bulgakov, François Ruggieri avait plus particulièrement étudié les romans, nouvelles et pièces de théâtre. La Garde Blanche, Les œufs fatidiques, Cœur de chien, La journée des turbines, cette pièce qui, selon Staline, servait la révolution à l'encontre de la volonté de son auteur. Que faire ? Jouer son personnage dans un temps et dans un pays où ce n'était pas jouable, et savoir que toutes ces entreprises littéraires étaient sans espoir. Et bien sûr, écrire Le Maître et Marguerite. Mikhaïl Bulgakov, deuxième et dernière émission d'une série proposée par François Ruggieri, avec la participation de Georges Lavelli, Georges Soria, Paul Kalinine, Jean Frustier et Mathieu Gallet. Texte lu par Jean Rochefort, Julien Guillemard et Maya Simon. Réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 10 novembre 1973.
Bonsoir. Nous avons eu la semaine dernière une première rencontre avec Mikhaïl Bulgakov. Nous avons parlé particulièrement de Cœur de chien. Cette semaine, j'aimerais que nous attachions plus particulièrement au Maître et Marguerite, qui est l'œuvre capitale, et aussi au roman de Molière. Mais pour commencer, nous allons parler plus brièvement de L'île pourpre, et ceci avec Georges Lavelli. Alors Georges Lavelli, pourquoi avez-vous choisi L'île pourpre ?
Je trouvais qu'il y a dans cette pièce et dans cet auteur, une matière extraordinaire, ou pas simplement un prétexte à remplir l'espace, mais sinon quelque chose qui va au-delà d'une position d'humour qui est permanent et satirique dans son œuvre, à un constat d'échec et à une espèce de prise de position par rapport à la réalité de son époque. Non ?
Il y a une théâtralité naturelle dans Bulgakov, vous dites ?
Oui, je crois que ça c'est un don qui est particulier d'écrire un langage qui est fait, qui est composé, qui est écrit pour être dit à haute voix. Et Bulgakov avait justement les secrets de cette formule en s'inscrivant toujours dans un contexte de théâtre classique, et enfin d'un théâtre d'une certaine orthodoxie, disons, dans la construction. Et il pouvait dégager des situations qui, en même temps, traverser, si j'ose dire, les temps pour être quelque chose d'intéressant aujourd'hui.
Qu'advint-il de l'île pourpre, Georges Soria ?
Eh bien, l'île pourpre connut un sort assez dramatique, puisque, écrite en 1927, elle fut représentée en 1928. Il y eut en tout et pour tout 3 représentations qui furent accueillies avec un succès absolument fracassant par le public qui eut la possibilité d'y assister. Et ce que j'ai gardé de L'île pourpre, c'est au fond, c'est 4 aspects essentiels, à savoir, tout d'abord, le discours sur l'homme qu'il y a dans cette pièce.
Mais qui est permanent dans l'œuvre de Bulgakov.
Et qui est permanent dans l'œuvre de Bulgakov. Ensuite, le discours sur l'histoire. Parce que, vous vous souvenez de L'île pourpre, vous savez que Bulgakov s'est arrangé par un système de structure gigogne pour mettre une pièce dans la pièce, n'est-ce pas ? Shakespeare, Pirandello. Et, en vérité, ce discours sur l'histoire, c'est un discours sur la société occidentale du XIXe siècle. Puisque, au départ, nous avons sur scène une troupe de comédiens qui doivent répéter dans des conditions catastrophiques un ouvrage pour le présenter quelques heures plus tard, un ouvrage qu'ils n'ont jamais lu, pour le présenter quelques heures plus tard devant le tout puissant représentant de la commission du répertoire, n'est-ce pas ? Et ensuite, il y a tout le problème de la condition de l'homme de théâtre.
Finalement, on arrive à un constat de faillite où l'auteur en question, le créateur de la pièce, l'auteur, enfin Bulgakov en somme, se voit contraint à accepter cette forme imposée d'exister en tant qu'auteur dramatique. Et il se trouve donc dans cette situation à la fois tragique et en même temps... je dirais comme une espèce d'intégration au système en passant par cette concession par rapport à la censure. Mais ce qui intéresse en réalité, c'est la présence de ces censeurs, personnages absolument ridicules et en même temps dangereux, qui a une idée précise enfin, sur ce que doit être un message ou une conclusion théâtrale, et qui fait que l'auteur, le directeur surtout du théâtre, réinvente une nouvelle manière de finir la pièce qui s'accorde avec l'orthodoxie du censeur.
Ce problème de la vérité vis-à-vis de soi-même et de la censure sous-tend toute l'œuvre de Bulgakov, depuis Les œufs fatidiques jusqu'au Maître et Marguerite. Et dans Le Maître et Marguerite, il y a un exemple qui est particulièrement frappant de ce problème, c'est les rapports entre Ponce Pilate et son prisonnier.
Entre autres choses, raconta le détenu, je lui ai dit que tout pouvoir est une violence exercée sur les gens, et que le temps viendra où il n'y aura plus de pouvoir, ni celui des Césars, ni aucun autre. L'homme entrera dans le règne de la vérité et de la justice, où tout pouvoir sera devenu inutile. Ensuite, c'est tout, dit le prisonnier. À ce moment-là, des gens sont accourus, ils m'ont attaché et conduit en prison. Le secrétaire, s'efforçant de ne rien perdre, traçait rapidement les mots sur son parchemin. Il n'y a jamais eu... Et il n'y aura jamais au monde de pouvoir plus grand ni plus excellent pour le peuple que le pouvoir de l'empereur Tibère, proclama Pilate d'une voix qui s'enfla soudainement, douloureuse et emportée. Et le procurateur regarda avec haine, on ne sait pourquoi, le secrétaire et les hommes d'escorte. « Et ce n'est pas à toi, criminel insensé, de le juger !» continua-t-il. Sur quoi il vociféra « L'escorte, hors d'ici !» Et se tournant vers le secrétaire, il ajouta « Laissez-moi seul avec le criminel. Il s'agit ici d'une affaire d'État. » Les soldats levèrent leurs lances et frappant le sol en cadence de leur caliga ferré, ils descendirent dans le jardin, suivis par le secrétaire. Pendant un moment, le silence ne fut troublé que par le murmure de l'eau dans la fontaine. Pilate voyait l'eau s'évaser au sortir du tuyau, en une large coupe dont les bords se brisaient pour retomber en petite pluie. Le détenu fut le premier à reprendre la parole. « Je vois, dit-il, qu'il est arrivé quelque chose de fâcheux à cause de ce que j'ai dit à ce jeune homme de Cariote. J'ai le pressentiment, Hégémon, qu'il lui arrivera malheur, et je le plains beaucoup. Je pense, répondit le procurateur avec un sourire bizarre, qu'il y a quelqu'un sur la terre que tu devrais plaindre bien plus que Judas Iscariote, et à qui il arrivera des choses bien pires qu'à Judas. Ainsi, d'après toi, Marcus Morora, qui est un tortionnaire froid et déterminé, et les gens qui, à ce que je vois, le procurateur montra le visage défiguré de Yeshua, t'ont battu à cause de tes sermons, et les brigands d'Ismas et Estas qui ont tué avec leurs complices 4 soldats, enfin, le sale traître Judas, tous sont de bonnes gens. Oui, répondit le prisonnier. Et le règne de la vérité viendra. Il viendra, Hégémon, répondit Yeshua avec conviction. Jamais ! Il ne viendra jamais ! Cria soudain Pilate, d'une voix si terrible que Yeshua eut un mouvement de recul. C'est de cette même voix que, bien des années plus tôt, dans la vallée des Vierges, Pilate criait à ses cavaliers « Sabré ! Les Sabré ! Ils ont pris le géant Varora !» Il éleva encore sa voix cassée par les commandements et vociféra les mots afin qu'ils soient entendus dans le jardin. « Criminel ! Criminel ! Criminel !» Là-dessus, baissant brusquement le ton, il demanda « Yeshua à Nosri, y a-t-il des dieux auxquels tu crois ?»« Il n'y a qu'un dieu, répondit Yeshua, et je crois en lui. » « Alors prie-le. Prie-le aussi fort que tu le peux. » D'ailleurs, et la voix de Pilate retomba tout à fait, « ça ne servira à rien. » « Tu n'es pas marié ?» demanda-t-il soudain, sans savoir pourquoi, avec tristesse, et ne comprenant pas ce qui lui arrivait. « Non, je suis seul. » « Ville détestable !» grommela de façon tout à fait inattendue le procurateur. Ses épaules frissonnèrent comme si soudain il avait froid, et il frotta ses mains l'une contre l'autre comme s'il les lavait. « Si on t'avait égorgé avant que tu ne rencontres ce Judas de Cariote, vraiment, cela aurait mieux valu. « Mais si tu me laissais partir, Hégémon ?» demanda tout à coup le détenu, avec de l'anxiété dans la voix. « Je vois qu'ils veulent me tuer. » Une crispation douloureuse altéra le visage de Pilate, et il leva sur Yeshua des yeux enflammés, dont le blanc était strié de rouge. « T'imagines-tu qu'un procurateur romain puisse laisser partir un homme qui a dit ce que tu as dit ?»«
Oh Dieu, Dieu !»«
Ou bien crois-tu que je sois prêt à prendre ta place ?»« Je ne partage pas du tout tes idées. »« Oh, et puis écoute-moi, si à partir de cette minute tu prononces un seul mot, si tu échanges une seule parole avec qui que ce soit, prends garde. »« Je te le répète, prends garde. »« Et Gémon, silence !» cria Pilate, et il suivit d'un regard furieux l'hirondelle qui s'engouffrait à nouveau sous les colonnes.
« Tout le monde ici »
appela-t-il. Lorsque le secrétaire et les hommes d'escorte eurent repris leur place, Pilate annonça qu'il ratifiait la sentence de mort prononcée par le petit Sanhédrin contre le criminel Yeshua à Nosri. Et le secrétaire inscrivit les paroles de Pilate.
Paul Kalinine, nous sommes dans cette période donc d'ère stalinienne, qu'on appelait l'ère stalinienne, où tout le monde est écrasé sous le joug de la censure. Que devient Bulgakov à ce moment-là ?
Bulgakov est un homme qui a le don de l'amitié. Sa maison est très accueillante, il reçoit tout le temps, il y a toujours des amis qui sont là. En plus, il a la chance d'avoir une campagne qui le seconde très efficacement, qui sait très bien l'entourer. Et Bulgakov n'est pas du tout l'écrivain amer, contrairement à tout ce que l'on pourrait attendre. Un soir, par exemple, m'a-t-on raconté, Prokofiev, le compositeur, bien sûr, vient lui rendre une visite. La soirée est très animée. Prokofiev est très en verve. C'est quelqu'un de très très drôle, Prokofiev. Au cours de la soirée, on envisage des projets de collaboration, ce qui était assez extraordinaire entre Prokofiev et Bulgakov. Et en sortant, Prokofiev dit à la personne qui l'accompagne dans la rue, mais est-ce que cela ne risque pas d'être compromettant d'avoir rendu visite à Bulgakov?
Écoute ce silence. Écoute. Et jouis de ce que tu n'as jamais eu de ta vie. Le calme. Regarde devant toi. Voilà la maison éternelle que tu as reçue en récompense. Je vois déjà une fenêtre à l'italienne et les vrilles d'une vigne vierge qui grimpe jusqu'au toit. Voilà ta maison. Ta maison pour l'éternité. Je sais que ce soir, ceux que tu aimes viendront te voir. Ceux qui t'intéressent et qui ne te causeront aucune inquiétude. Ils joueront de la musique. Ils chanteront pour toi. Et tu verras. Quelle lumière dans la chambre quand brûleront les chandelles. Tu t'endormiras avec ton éternel vieux bonnet de nuit tout taché. Tu t'endormiras avec le sourire aux lèvres. Ton sommeil te donnera des forces et tu te mettras à raisonner sagement. Et tu n'auras plus jamais l'idée de me chasser. Quelqu'un veillera sur ton sommeil et ce sera moi.
En dehors d'Hélène, donc, Bulgakov a la passion du théâtre, et je crois que ça se sent terriblement dans le roman qu'il a écrit sur l'homme de théâtre français, Molière.
Oui, bien sûr. Je crois que, et c'est ce qui en fait, d'ailleurs, vous le dites, la qualité fondamentale. C'est qu'il s'agit d'un livre écrit par un homme de théâtre sur un homme de théâtre.
Certaines sages-femmes qui avaient appris son art à l'hôtel de Notre-Dame de la Pitié à Paris, sous la direction de la célèbre Louise Bourgeois, aida le 13 janvier 1622 la charmante dame Poquelin, née Crécé, à mettre prématurément au monde un premier enfant, de sexe masculin. J'ose affirmer sans risque d'erreur que si j'avais réussi à expliquer exactement à la digne accoucheuse qui elle mettait au monde, sous le coup de l'émotion, elle eût peut-être causé quelques préjudices au petit être et à travers lui, à la France entière. Imaginez la scène. Je porte un habit aux poches immenses. Dans ma main, une plume d'oie et non de vulgaire métal. Devant moi brûlent des bougies de cire et j'ai la cervelle tout échauffée. « Madame, lui dis-je, soyez prudente en le prenant dans vos bras. N'oubliez pas qu'il est né avant terme. Sa mort serait une perte irréparable pour votre pays. »« Oh, et après, mon Dieu, quelle affaire, mademoiselle Poquelin en ferait un autre. Mademoiselle Poquelin n'accouchera jamais d'un second poupard comme celui-ci, pas plus d'ailleurs qu'aucune autre femme, plusieurs siècles d'affilée. »« Vous m'étonnez, monsieur ?» J'en suis moi-même étonné. Songez que si 300 ans plus tard, dans mon lointain pays, je me souviens de vous, c'est parce que vous avez tenu entre vos bras le petit Poquelin. Mais j'ai accouché des enfants de bien plus haut lignage. Que voulez-vous dire avec votre lignage? Ce bébé sera plus connu que le roi régnant, Louis XIIIe du nom. Il sera plus célèbre que le suivant, et pourtant, on surnommera celui-là Louis le Grand ou le Roi Soleil. Voyez-vous, bonne dame, il existe un pays lointain que vous ne connaissez pas, appelé Moscovie. Il est peuplé d'hommes parlant une langue étrange pour vous, et bien ce pays résonnera sous peu des paroles de celui que vous venez de mettre au monde. Si vous le voyez, même les Russes ont entendu parler du petit homme que vous mettez au monde aujourd'hui. Oh, lien du temps. Oh, courant des lumières. Les paroles de votre marmot seront traduites en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, en hollandais, en danois, portugais, polonais, turc, russe. Est-ce possible, monsieur? Ne m'interrompez pas, madame. En grec moderne, je veux dire, mais aussi en grec ancien, en hongrois, roumain, tchèque, suédois, arménien, arabe. Monsieur, vous m'étonnez. Oh, le plus surprenant de l'affaire n'est pas là. Je pourrais vous citer des dizaines d'écrivains traduits en langue étrangère qui ne méritent pas l'honneur d'être imprimés dans leur langue maternelle. Mais votre mioche, non seulement on le traduira, mais on écrira des pièces sur lui. Vos seuls compatriotes en aligneront des dizaines. Les Italiens ne demeureront pas en reste, et parmi eux, Carlo Goldoni, dont on disait qu'il était né aux applaudissements des muses. Il y aura aussi des Russes.
Ce qui a rapproché Bulgakov de Molière, c'est Louis XIV, Louis XIV de Staline, il y avait un parallèle.
Sans doute, il y a un parallèle. Je crois d'ailleurs, si vous voulez, il y a un point que je voudrais peut-être préciser, c'est qu'il me semble qu'il ne faut pas lire Staline à la lumière de Louis XIV et réciproquement, mais la visée, c'est d'attirer l'attention chaque fois sur l'incompatibilité du pouvoir et du créateur.
Celui qui gouvernait la terre n'ôtait jamais son chapeau devant personne, sauf les dames. Il ne se serait pas découvert devant Molière agonisant. Il ne lui aurait pas rendu visite. Il est d'autre part certain qu'aucun prince ne s'est dérangé en cette circonstance. Le maître de la terre se considérait comme immortel, mais je crois que là, il se trompait. Il était mortel comme tout le monde et par conséquent, aveugle. S'il ne l'avait pas été, il se serait hâté auprès du mourant, car il aurait lu dans l'avenir des signes intéressants. Peut-être aurait-il désiré alors s'associer à une immortalité authentique. Il aurait vu à l'endroit de l'actuel Paris ou à l'angle aigu se rencontrent les rues de Richelieu, Thérèse et Molière, un homme assis, immobile, sous un chapiteau. Plus bas, deux femmes de marbre blanc gardant des rouleaux de parchemin et en dessous des têtes de lions et la vasque tarie d'une fontaine. Vous le reconnaissez, ce Gaulois séduisant et malicieux, comédien du roi et dramaturge. Le voilà sous sa perruque, chaussé d'escarpins de bronze. Le maître de la dramaturgie française, allons donc, ma bonne dame. Que me parlez-vous de ces enfants de qualité que vous avez tenus dans vos mains? Comprenez à la fin que ce nourrisson que vous mettez au monde dans la maison Poquelin n'est autre que Monsieur Molière, alors. Vous m'avez saisi? Faites donc attention, je vous prie. Dites, il a crié, il respire, il vit.
L'opposition n'existait pas au XVIIe siècle.
Mathieu Gallet.
C'est là où la comparaison ne marche plus. C'est qu'au XVIIe siècle, on ne concevait pas d'autre régime que celui qui était en place. L'opposition, si elle se manifestait, c'était uniquement dans certains petits domaines de la foi, par exemple les jansénistes, mais absolument pas dans le domaine politique ni social. Alors que Bulgakov... je pense, parce qu'il était né dans un autre monde, refusait ce régime-là, c'est tout. Mais je ne pense pas que c'était non plus un opposant actif, Bulgakov. Rien ne l'aurait empêché d'être un russe blanc s'il avait voulu. Pourquoi ne l'a-t-il pas été?
Donc, sans être un opposant actif, Bulgakov reste malgré tout un opposant idéologique, Paul Kalinine.
C'est cela, oui. C'est l'idéologie. C'est le rapport avec l'idéologie qui se pose, évidemment, dans les mêmes termes que celui qui se posait pour Molière vis-à-vis de la religion.
Cet ouvrage sur Molière, pour quelle collection l'écrit-il?
Il l'écrit pour une collection Vie des grands hommes, dont le seul titre vous indique déjà suffisamment le didactisme. Il écrit cette biographie Et il n'est pas du tout étonnant que le scénario qui se produisait pour les pièces se reproduise pour son roman, son œuvre. Elle est immédiatement refusée. On dit « ça ne rentre pas du tout dans le cadre, comme on dit, de notre collection ». C'est évident. C'est le même reproche que nous aurons pour la pièce qu'il écrit en même temps, « La cabale des dévots », qui sera critiquée par Stanislavski, qui en dira « nous ne voyons pas le grand homme Molière, le génial comédien, nous ne le voyons pas suffisamment, nous voyons quelqu'un qui se trouve dans une situation, on en voit trop sa vie privée ».
En bas, l'une après l'autre, des bougies s'allument dans des mains tremblantes. À ce moment-là, à l'étage, Jean-Baptiste se tend de tout son corps, frissonne. Le sang coule abondamment de sa bouche, inondant ses vêtements. D'abord, il se sent soulagé. C'est bien, songe-t-il même. Ensuite, il est frappé d'étonnement. Sa chambre se transforme en lisière de forêt. Un cavalier noir, essuyant le sang de sa tête, tire sur les rênes de sa monture, s'efforce de sortir de sous son cheval blessé. L'animal se débat et l'écrase. Des voix parfaitement incompréhensibles retentissent dans la pièce. « Cavalier, à moi, Soissons est tué !» C'est le combat de la Marfée, songe Molière, et le gentilhomme qui gît sous son cheval, c'est le sieur de Modène, le premier amant de Madeleine. Le sang coule à flot de la gorge. Une veine a dû se rompre quelque part. Le sang l'étouffe et il remue la mâchoire inférieure. Modène disparaît de sa vue et aussitôt, le Rhône revit dans une apocalypse. Le soleil, sous l'apparence d'une boule pourpre, commence à s'enfoncer dans les eaux au son du luth de l'empereur d'Assoucy. Est-ce absurde, songe Molière, ni le Rhône, ni ce luth ne sont là de saison. Je suis tout bonnement en train de mourir. Il a le temps de se demander avec curiosité à quoi peut bien ressembler la mort. Et il la voit, aussitôt. Elle est entrée en courant dans la pièce, coiffée d'une cornette, et s'est empressée de faire un grand signe de croix sur lui. Il veut encore l'examiner le plus attentivement possible, mais il ne voit rien de plus. Baron, deux candélabres à la main, monte par l'escalier, l'inondant de lumière. À sa suite, sa traîne relevée d'une main court Armande. Elle tire derrière elle une petite fille aux joues bouffies. « Ce n'est rien, ce n'est rien. N'aie pas peur, esprit, » lui chuchote-t-elle à l'oreille. « Allons chez ton père. » On entend le chant triste et nasillard de la Clarisse. En faisant irruption dans la pièce, Armande et Baron la découvrent en prière, les mains jointes. « Sainte Claire, » songe Armande. Et elle découvre le lit et Molière lui-même, tout inondé de sang. La petite fille prend peur et éclate en sanglots. « Molière, » dit Armande d'une voix qui tremble comme il ne lui est jamais arrivé. Mais elle ne reçoit aucune réponse. Baron pose à la volée les candélabres sur la table, dégringole les degrés 4 à 4 et, agrippant, un serviteur se met à crier « Où traînais-tu ? Où est le médecin ? Réponds, misérable !»« Monsieur de Baron, qui puis-je ? » répond le valet d'une voix désespérée. « Aucun d'eux ne veut venir chez monsieur de Molière. Personne !»
Qu'est-ce que vous pensez du changement politique qui s'est... Enfin, je pense particulièrement à Khrouchtchev et la chance donc qu'a eu Bulgakov de bénéficier de cette relative période de clémence et aussi de ce désir qu'avait Khrouchtchev de démolir le mythe stalinien. Est-ce que vous pensez que Khrouchtchev s'est servi de Bulgakov comme d'un instrument, parmi d'autres naturellement?
Je vais vous dire, je crois que ce thème dont nous abordons est un thème extrêmement sérieux et grave. Je crois que le 20e congrès du PCUS, qui a été le congrès où le stalinisme a été en quelque sorte mis au banc d'accusation, est un événement de l'histoire contemporaine d'une très 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 grande complexité. Et je crois que si Khrouchtchev n'avait pas existé, on en aurait inventé un, n'est-ce pas ? Parce que ce phénomène de libération, de craquement de la société soviétique sous l'impulsion, d'ailleurs, elle, ici, il faut donner un coup de chapeau au Parti communiste de l'URSS qui a tout de même eu le courage de dénoncer ces crimes du stalinisme et de faire son autocritique, parce qu'aucun gouvernement au monde n'effectue ce genre de besogne, si vous voulez, avec le sourire. Là, il faut vraiment tirer un coup de chapeau à ces gens. Ils ont tiré les leçons du stalinisme, dénoncé et tiré les leçons du stalinisme, et par conséquent, il est bien évident qu'à partir du moment où le stalinisme était en tant que tel condamné, eh bien, toutes ces victimes étaient réhabilitées du même coup. Et que ce fût dans le domaine de la politique, ou dans le domaine de la littérature, ou des arts, eh bien, c'est évident que dans la mesure où on réhabilitait ces victimes, elles étaient appelées à prendre une place très importante, très considérable, sur le devant de la scène, à occuper le devant de la scène, et surtout quand elles avaient le génie.
Le mérite, oui. Malgré toutes ces tracasseries, Mikhaïl Bulgakov rencontre l'amour, il rencontre Hélène. Hélène qui lui servira de modèle pour créer le personnage de Marguerite dans Le Maître et Marguerite.
L'amour surgit devant nous comme surgit de terre l'assassin au coin d'une ruelle obscure et nous frappa tous deux d'un coup. Ainsi frappe la foudre, ainsi frappe le poignard. Elle affirma d'ailleurs par la suite que les choses ne s'étaient pas passées ainsi, puisque nous nous aimions évidemment depuis très longtemps, depuis toujours, sans nous connaître, sans nous être jamais vus, et qu'elle-même vivait avec un autre homme. Oui, l'amour nous frappa comme l'éclair. Je le sus le jour même, une heure plus tard, quand nous nous retrouvâmes sans avoir vu aucune des rues où nous étions passés sur les quais au pied des murailles du Kremlin. Nous causions, comme si nous étions quittés la veille, comme si nous nous connaissions depuis de nombreuses années. Le soleil de mai nous inondait de lumière et bientôt, très bientôt, cette femme devint secrètement mon épouse. Personne ne connaissait notre liaison, je m'en porte garant, bien que ce soit là généralement chose impossible. Son mari l'ignorait, ainsi que leurs amis.
Il est évident que le personnage de Marguerite, c'est le personnage d'Hélène. Personnage absolument étonnant, dont l'histoire, à peine déguisée, se retrouve dans le roman. Elle était l'épouse, dans le roman dit, d'un haut fonctionnaire. En fait, c'était un général de l'armée soviétique. Et elle a quitté son mari pour suivre Bulgakov. Et elle a été la conseillère, le soutien dans ces heures désespérées où toutes les issues étaient fermées. Hélène Bulgakov a été celle qui a cru jusqu'au bout, et même au-delà, disons, à Bulgakov, parce que si Bulgakov est resté, il faut tout de même voir ce problème extrêmement important. Si l'héritage littéraire de Bulgakov est resté, si ses manuscrits nous sont parvenus, si son œuvre finalement a été éditée, c'est grâce à Hélène qui a réussi à conserver cela, qui a veillé sur cet héritage, qui l'a défendu, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des papiers dans une armoire, il s'agit également de se battre pour les publier, et c'est ce qu'elle a réussi.
Je crois que dans Le Maître et Marguerite, Bulgakov atteint la dimension la plus haute du fantastique qui est le tragique. Alors que dans Les Eaux fatidiques, nous avons affaire à un langage qui est encore celui de la satire et qui est celui de la dérision.
Et du journaliste, presque.
Presque. Très brillant, très enlevé. Mais vous voyez, en quelque sorte, il y a dépouillement des moyens d'expression chez Bulgakov au fur et à mesure qu'il avance dans ses œuvres maîtresses. Car Le Maître Marguerite est son œuvre maîtresse, il l'a travaillé dessus, si je ne m'abuse, pendant 12 ans, et à la veille même de sa mort tragique, sa femme Elena, précisément, lui relisait à haute voix
du pilori le plus
texte
proche,
de parvenez
les
Maître Marguerite,
d'une absurde
qu'il ne pouvait
chanson.
Plus lire de ses yeux.
L'homme qui était pendu, Estas, avait perdu la raison vers la fin de la troisième heure, à cause du soleil et des mouches. Maintenant, il chantonnait doucement on ne sait quoi à propos de raisins. Toutefois, il secouait encore par moments sa tête coiffée d'un turban, alors les mouches s'envolaient paresseusement de son visage pour revenir s'y poser l'instant d'après. Au second pilori, Dismas souffrait plus que les deux autres, car l'obscurité n'avait pas envahi son esprit et il secouait la tête presque sans arrêt et en cadence, une fois à droite, une fois à gauche, jusqu'à toucher de l'oreille son épaule. Yeshua, lui, avait eu plus de chance. Dès la première heure, il était tombé plusieurs fois en syncope, et depuis, il avait sombré dans l'inconscience. Sa tête pendait sur sa poitrine et son turban s'était déroulé. Aussi était-il littéralement couvert de mouches et de tang, au point que son visage avait disparu sous un masque noir et grouillant. Son aine, son ventre, ses aisselles étaient envahies de tang gros et gras qui suçait son corps nu et jaune.
Elle s'arrêta et le regarda. Il était dans ses pensées, immobile. Puis il tourna la tête vers elle et lui demanda
« Lis-moi 4 ou 5 pages avant. Comment est-ce ? Le soleil se couche ?»
Voilà. Le soleil décline et la mort ne vient pas.
Et une ligne plus loin.
Mon Dieu, pourquoi ton courroux est-il sur lui ? Envoie-lui la mort.
C'est ça. Je vais dormir un peu, Léna. Quelle heure est-il ?
Ce furent des jours de souffrance muette. Les mots mouraient lentement en lui.
Cette mélange de fantaisie, d'humour, n'est-ce pas, de vivacité des personnages.
Alexandre Petrovitch.
Et en même temps, cette profondeur de la philosophie, si vous voulez, et la poésie extrêmement complexe, c'est ça ce qui m'a séduit. Moi, je pense que c'est un roman, en même temps, si vous voulez, moderne et classique. C'est un roman par lequel, n'est-ce pas, vous pouvez prouver que la littérature moderne pourrait être aussi très populaire et très accessible.
Il allait être bientôt minuit. Il fallait se hâter. Marguerite ne voyait que confusément ce qui se passait autour d'elle. Elle garda le souvenir des bougies et aussi d'un grand bassin de pierre où on la fit descendre. Quand elle y fut, Ella, aidée de Natacha, versa sur elle un liquide chaud, épais et rouge. Marguerite sentit un goût salé sur ses lèvres et comprit que c'était du sang. Puis cette robe écarlate fit place à une autre, épaisse aussi, mais transparente et d'une teinte rose pâle. Et Marguerite fut étourdie par le parfum de l'essence de rose. Ensuite, on la fit allonger sur un lit de cristal et à l'aide de grandes feuilles vertes, on frictionna son corps à le faire briller. À ce moment, le chat vint à la rescousse. Il s'accroupit devant Marguerite et se mit à lui frotter les pieds avec les mimiques d'un cireur dans la rue. Marguerite ne put se rappeler qui lui confectionna des souliers en pétales de rose blanche, ni comment ceux-ci s'agrafèrent d'eux-mêmes à ses pieds avec des boucles d'or. Une force inconnue la fit lever et la conduisit devant une glace. Et elle vit étinceler dans ses cheveux les diamants d'une couronne royale. Sorti on ne sait d'où, Koroviev passa au cou de Marguerite une lourde chaîne à laquelle était suspendu un lourd portrait ovale qui représentait un caniche noir. Cet ornement fut une charge accablante pour la reine. Tout de suite, elle sentit que la chaîne lui blessait le cou et que le portrait qui pendait sur sa poitrine la tirait en avant. Si quelque chose compensa, dans une certaine mesure, l'extrême embarras que causait à Marguerite ce caniche noir, ce fut le profond respect que lui témoignèrent alors Koroviev et Behemoth. Rien, grommela Koroviev à la porte de la salle, au bassin. On n'y peut rien. Il le faut. Permettez-moi, reine, de vous donner un conseil. Parmi nos invités, il y aura des gens divers. Très divers. Mais à aucun, reine Margot, à aucun d'eux, vous ne devez marquer la moindre préférence. Si quelqu'un ne vous plaît pas, je comprends bien naturellement que vous n'irez pas le montrer par l'expression de votre visage. Non, il ne faut même pas y penser. Il le remarquerait à l'instant même. Il faut l'aimer, reine, il faut l'aimer. La reine du bal en sera récompensée au centuple. Encore une chose, ne négligez personne. Un simple sourire, si vous n'avez pas le temps de dire un mot, ou ne serait-ce que le plus petit signe de tête, tout ce que vous voudrez, mais surtout, pas d'inattention. Cela les ferait tomber immédiatement en décrépitude. Sur ces mots, Marguerite, accompagnée de Koroviev et Behemoth, quitta la salle au bassin et se retrouva dans une obscurité complète. « C'est moi !» murmura le chat. « C'est moi qui donne le signal !»« Donne !» répondit dans le noir la voix de Koroviev. « Balle !» clapit le chat d'une voix perçante. Marguerite poussa un léger cri et ferma les yeux pendant quelques secondes. Le bal, lumière, bruits et parfums étaient tombés sur elle d'un seul coup.
Moi, je pense que Maître Marguerite est un roman, un œuvre qui pose, si vous voulez, la nécessité de la création d'un moral, n'est-ce pas, dans la vie moderne, partout d'ailleurs, et qui impose aussi la nécessité d'un certain irrationalisme absolument moderne, absolument nouveau à mon avis, n'est-ce pas, qui est nécessaire aussi pour la vie.
À la fraîcheur d'une salle de bal dont les colonnes de pierre jaune jetaient mille feux. Cette salle, comme la forêt, était entièrement vide, à l'exception de nègres nus, coiffés de turbans argentés, qui se tenaient debout près des colonnes. D'émotion, leur visage prit une teinte d'un brun sale quand Marguerite fit son entrée, accompagnée de sa suite à laquelle s'était joint, on ne sait comment, Azazello. Koroviev lâcha le bras de Marguerite et chuchota « Aux tulipes !» Instantanément, un petit mur de tulipes blanches s'éleva devant Marguerite. Au-delà, elle aperçut d'innombrables petites lampes masquées par des abat-jours, et derrière celles-ci, les poitrines blanches et les épaules noires d'hommes en habit. Marguerite comprit alors d'où venait ce bruit de balle. Le fracas des cuivres croulait sur elle, et le ruissellement des violons l'inondait comme une pluie de sang. Un orchestre de 150 musiciens jouait une polonaise. Lorsque l'homme en habit dressé devant l'orchestre aperçut Marguerite, il pâlit, sourit et tout d'un coup, d'un geste des deux bras, fit lever les musiciens. Ceux-ci, sans s'interrompre un instant, continuèrent debout à déverser sur Marguerite un flot de musique. L'homme tourna le dos à l'orchestre et s'inclina très bas, les bras largement écartés. Marguerite, en souriant, lui fit un signe de la main. « Non, ce n'est pas assez !» lui chuchota Koroviev. « Il n'endormirait plus la nuit. »« Criez-lui, je vous salue, roi de la valse !» Marguerite obéit et fut étonnée d'entendre sa voix, pleine comme le son d'une cloche lancée à toute volée, couvrir le tumulte de l'orchestre. L'homme tressaillit de joie et posa sa main gauche sur son cœur tout en continuant de sa main droite, armée d'une baguette blanche, à diriger la musique. « Pas assez encore !» chuchota Koroviev. « Regardez maintenant à gauche les premiers violons. et faites leur signe de telle sorte que chacun d'eux pense que vous l'avez reconnu personnellement. Il n'y a ici que des célébrités mondiales. Saluez celui-ci, derrière le premier pupitre. Ses vieux dents. Voilà. Très bien. Et maintenant, continuons. Qui est le chef d'orchestre ? Demanda Marguerite en quittant le sol. Johann Strauss ! Cria le chat. Et que je sois pendu à une liane de la forêt tropicale, si on n'a jamais vu à un bal pareil orchestre, c'est moi qui l'ai invité. Et vous remarquerez que pas un musicien ne s'est trouvé malade ou n'a refusé de venir. Dans la salle suivante, il n'y avait pas de colonne. L'un des murs était fait de roses, rouges, roses ou blanches comme du lait, et l'autre de camélias doubles du Japon. Déjà entre ces murs jaillissaient en moussant des fontaines de champagne, et le vin retombait en pétillant dans trois vasques transparentes, dont la première était violette, la seconde rubis et la troisième cristalline. Auprès de ces vasques s'affairaient des nègres à turbans écarlates qui, à l'aide de puisoirs d'argent, remplissaient de champagne de larges coupes évasées. Dans un renfoncement du mur de rose était ménagée une estrade sur laquelle se démenait furieusement un homme en frac rouge à queue de pie. Devant lui, tonitruait à vous rompre les oreilles un jazz band. Dès qu'il vit Marguerite, l'homme en rouge s'inclina devant elle si bas que ses mains touchèrent le sol, puis il se redressa et vociféra « Alléluia !» Il fit claquer sa main droite sur son genou gauche. Une ! Sa main gauche sur son genou droit. Deux ! Arracha une cymbale des mains d'un musicien et en frappa violemment la colonne de l'estrade. En reprenant son vol, Marguerite vit encore ce virtuose du jazz qui s'efforçait de lutter contre la polonaise dont la tempête soufflait maintenant dans le dos de Marguerite, cogner à coups de cymbales les têtes de ses musiciens qui se baissaient précipitamment avec une frayeur comique.
Est-ce que vous citeriez Bulgakov dans la littérature universelle, ou tout au moins dans la littérature de ce siècle ?
Bien, si on me demandait quels sont les trois ou quatre plus grands écrivains soviétiques, je dirais que Bulgakov est avec Solzhenitsyn et Gorky, et chacun dans son genre, n'est-ce pas ? Et Mayakovsky, les quatre plus grands écrivains soviétiques et russes sont ceux-là. Bulgakov est un des quatre. Maintenant, c'est une énumération, une classification qui est toujours hasardeux de faire, mais parmi les 20 plus grands plus grands auteurs du XXe siècle, je citerai à travers toutes les littératures Bulgakov comme un des plus grands, certainement, certainement.
Est-ce que vous pensez que Bulgakov, en tant qu'homme de théâtre pur, c'est-à-dire pour les tourbines, pour l'île pourpre, restera dans l'histoire du théâtre ?
Je crois, si vous voulez, qu'il...
Parce que son roman ne bougera pas, Le Maître et Marguerite, c'est pour l'éternité.
Je crois que c'est une question extrêmement pertinente. Je crois qu'une pièce comme Les Journées des Tourbines... intéressera plus, si vous voulez, dans 50 ans ou dans 100 ans, parce qu'elle permettra, éventuellement je crois, elle permettra de se faire une idée de ce que fut la société soviétique de cette époque.
Et d'être un document historique.
Et d'être un document historique. Ça, si vous voulez, c'est à la fois, ça sera sa grandeur et ses limites, n'est-ce pas ? Je crois au contraire que L'île pourpre est une pièce de tous les temps, qui ne vieillira pas.
L'île pourpre est une pièce qui ne vieillira pas naturellement à cause de son thème. Le thème, c'est la liberté. Et ce thème de la liberté est repris aussi dans Le Maître et Marguerite, particulièrement entre les rapports entre Ponce Pilate et Jésus-Christ.
Écoute, Anoshri, dit le procurateur en posant sur Yeshua un regard singulier, où la menace se mêlait à une sorte d'anxiété. Écoute, as-tu dit, à un moment ou à un autre, quelque chose à propos du grand César. Réponds, qu'as-tu dit ? Ou bien, n'as-tu rien dit ? Pilate pesa sur le mot « rien », un peu plus qu'il n'était d'usage dans ce genre d'interrogatoire,
et le regard qu'il lança à Yeshua semblait suggérer à celui-ci on ne sait quelle idée. « Dire la vérité, c'est facile et agréable », fit remarquer le détenu. Pilate faillit s'étrangler de fureur. « Je me moque de savoir s'il est agréable ou non de dire la vérité. Il faudra bien que tu la dises, de toute façon. Mais pèse chacune de tes paroles, si tu ne veux pas connaître une mort non seulement inévitable, mais terriblement douloureuse. » Nul ne saura jamais ce qui était arrivé au procurateur de Judée. Toujours est-il qu'il se permit de lever la main, comme pour protéger ses yeux d'un rayon de soleil, et, derrière l'écran ainsi formé, d'adresser au prisonnier un regard significatif, allusif en quelque sorte. « Ainsi, dit-il, réponds, connais-tu un certain Judas de Cariote en Judée, et que lui as-tu dit, si tu lui as dit quelque chose, au sujet de César ?» Voici ce qui s'est passé, commença de bonne grâce le détenu. Avant-hier soir, près du temple, j'ai fait la connaissance d'un jeune homme originaire de la ville de Cariote, qui s'appelait Judas. Il m'a invité chez lui, dans la ville basse, et m'a offert à boire et à manger. Un homme bon ? Demanda Pilate, tandis qu'une flamme diabolique s'allumait dans ses yeux. Un excellent homme. Et curieux de tout ? Affirma le prisonnier. Il a montré le plus vif intérêt pour mes idées et il m'a reçu avec la plus grande cordialité. Il a allumé les flambeaux, dit Pilate entre ses dents, du même ton que le détenu, et ses yeux brillèrent. « Oui, » dit Yeshua, quelque peu étonné de voir le procurateur si bien renseigné. « Il m'a demandé, » reprit-il, « de lui donner mon point de vue sur le pouvoir d'État. » Cette question l'intéressait prodigieusement. « Et qu'as-tu dit ?» demanda Pilate. « Ou peut-être me répondras-tu que tu as oublié ce que tu lui as dit ?» Mais on sentait au son de sa voix que Pilate n'avait plus d'espoir.
C'est une figure de substitution de Staline, pense Pilate, ou plutôt, il y a une scène où pense Pilate à une espèce d'étourdissement et où il croit voir la figure de Tibère. Tibère, c'est Staline, mais tous ces fonctionnaires qui démissionnent, qui s'en lavent les mains, eh bien, c'est toute la Russie stalinienne, ce sont les fonctionnaires qui refusent la responsabilité. Et pense Pilate, c'est vraiment le mythe du fonctionnaire démissionnaire dans la Russie stalinienne.
Eh bien,
le maître et Marguerite, c'est un classique maintenant. C'est un tirage considérable. Chaque fois qu'une nouvelle édition paraît, en quelques heures, elle est enlevée. Bulgakov, maintenant, c'est un classique soviétique. Ils sont un peu le fagot encore par certains aspects, bien sûr. Bon, mais en tout cas, le fait est là. Il est publié, il est joué, il est représenté. Et c'est ça l'essentiel, c'est ce qui est important à mes yeux. Parce qu'il n'y a rien de plus dramatique que l'idée qu'un grand homme de théâtre, qu'un grand romancier, eh bien, soit condamné au silence, à l'oubli.
À l'automne 1939, il partit avec Léna pour Leningrad. Ils avaient envie de changer un peu d'atmosphère, de vivre à l'hôtel, de se sentir des touristes oisifs. C'est à Leningrad que Bulgakov eut sa première crise. Il avait tous les symptômes d'une hypertension nerveuse qui progressait rapidement et menaçait de se transformer en urémie. Les médecins de Leningrad lui conseillèrent de rentrer immédiatement à Moscou. À Moscou, il se coucha et il ne se releva plus. Je vins le voir le premier jour de leur retour. Contrairement à mon attente, il était calme. Il me parla en détail de ce qui allait lui arriver dans les 6 mois à venir et me dit comment sa maladie allait évoluer. Je ne le crus pas. Mais tout se passa exactement comme il l'avait prédit. Je venais le voir presque tous les jours et voulant situer avec précision les événements de sa vie, je lui proposais de jouer au journaliste indiscret qui vient importuner un écrivain célèbre de ses questions.
« Tu me fais marcher, »
dit-il, mais il accepta le jeu. Plus tard, ce jeu l'amusa et je notai quelques-unes de ses conversations qui se composaient de questions et de réponses. J'ai déjà dit que ses notes s'étaient perdues, mais il se trouve que j'en ai gardé un feuillet.
Le voici.
Je ne comprends quand même pas, cher camarade, pourquoi vous m'ennuyez avec vos questions.
L'humanité entière s'intéresse à tous les détails de votre vie.
Je le sais bien, mais la noblesse de mon caractère me contraint à vous prévenir que je ne suis pas des vôtres.
C'est peut-être pour cela, justement, que vous présentez un intérêt particulier.
Ben, c'est odieux ce que vous dites là, mon cher ami. Je suis des vôtres. Je plaisantais.
Pardon. Je ne comprends pas.
Hier, vous m'avez interrogé sur mes débuts littéraires.
C'est tout à fait exact. Je suis tout oui.
C'est à ce moment-là que je me suis joué mon premier tour de cochon.
Ah, comment cela ?
Oh. Jeunesse, jeunesse. Je suis allé déposer ma première œuvre dans une salle de rédaction assez respectable, dans une tenue complètement démodée. J'avais déniché un complet, ce qui était déjà assez rare à l'époque, et j'avais mis une cravate assez amusante. Et lorsque je me suis trouvé devant le rédacteur en chef, j'ai lancé mon monocle en l'air et je l'ai adroitement rattrapé avec mon œil. Je crois même qu'il existe quelque part une photo de moi avec mon monocle et mes cheveux gominés coiffés en arrière. Je crois que le rédacteur en chef fut impressionné par mon aspect, mais je ne m'en tins pas là. De la poche de mon gilet, je sortis avec précaution l'oignon de mon grand-père. J'appuyai sur un bouton et ma montre familiale se mit à jouer un air qui ressemblait à « Chantons la gloire de notre Seigneur à Sion ». Et alors, ai-je demandé en regardant le rédacteur en chef dont le seul aspect me faisait trembler et que j'adorais. Et alors, fit-il, reprenez votre manuscrit et occupez-vous de n'importe quoi, sauf de littérature, jeune homme. Sur quoi, il se dressa de toute sa taille et me fit comprendre que l'entrevue était terminée. En partant, je l'entendis clairement dire à son secrétaire qui avait l'air très agité, « Il n'est pas des nôtres. Je suis certain que cela s'appliquait à moi.
» Et vous pensez que cet incident a joué un rôle fatal dans tous vos rapports ultérieurs avec des rédactions ?
Mon cher ami, je vous conseille de donner à cet incident un sens plus général. Il s'agit de mon caractère. L'oignon et le monocle n'étaient que des armes maladroites pour combattre ma timidité et trouver le moyen d'exprimer mon indépendance.
Allons plus loin. Qu'est-ce qui vous a amené au théâtre ?
La soif d'argent et de gloire. Le rêve secret que je berce depuis mon enfance, c'est d'être appelé sur scène par le public. J'ai vu en dormant ma longue silhouette chancelante couronnée de cheveux ébouriffés au milieu de la scène et le metteur en scène reconnaissant, se jetant à mon cou et m'embrassant sous les clameurs enthousiastes d'un public déchaîné.
Sauf le respect que je vous dois à la reprise des Journées des Turbines, on a relevé le rideau 16 fois, le public a crié « l'auteur » et vous, vous n'avez pas montré le bout du nez.
Les Français disent qu'on vous offre un pantalon quand vous n'avez plus de fesses. Pardonnez-moi cette expression brutale.
Et prenant tout d'un coup un air soupçonneux.
Vous n'êtes pas envoyé par un journal français, par hasard ?
Non. Puis d'un ton insinuant.
Ou par un autre journal étranger ?
Non. Par un journal russe.
Par le journal des émigrés blancs de Riga ?
Ses mains s'étaient mises à trembler. Que Dieu m'en garde ! Je fis un geste d'horreur. Je suis de Moscou Soir. De ce merveilleux et incomparable journal qu'est Moscou Soir.
Bravo. Léna, mets la vodka sur la table, que ce freluquet s'en mette plein la lampe. Il n'y a aucun risque qu'il publie même une ligne de moi dans son journal.
Sur sa table de chevet apparaissaient de plus en plus de médicaments. De plus en plus souvent, des médecins venaient.
C'était Mikhaïl Bulgakov, deuxième et dernière émission d'une série proposée par François Rogieri, avec la participation de Georges Soria, Paul Kalinine, Jean Frustier, Mathieu Gallet et Georges Lavelli. Texte lu par Jean Rochefort, Julien Guillaumard et Maya Simon. Réalisation Alain Barou. Première diffusion sur France Culture le 10 novembre 1973. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.